Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Pour ce 16e épisode, nous allons aborder ensemble le métier d'ingénieur pédagogique. Nous allons échanger sur le parcours de l'invité, ses tâches et ses réalisations. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, Monsieur Lugan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur pédagogique à l'École nationale des ponts et chaussées depuis octobre 2021, c'est ça?
Exactement.
Pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez commencer par décrire votre parcours universitaire et ce que vous avez appris aussi lors de vos études?
Alors, mon parcours universitaire, il a commencé à l'université Panthéon-Sorbonne, à Paris 1. Et donc, j'ai passé une licence d'art plastique, puis une maîtrise d'art plastique. Ça m'a emmené vers un CAPES d'art plastique parce que je souhaitais m'orienter vers l'enseignement. Et puis, j'ai donc commencé à enseigner et j'ai repris un moment des études et j'ai passé un master 2 professionnel multimédia interactif. Toujours à l'université Panthéon-Sorbonne. En fait, par rapport à cette reprise d'études, il s'agissait pour moi de m'orienter davantage vers des métiers pour accompagner les enseignants dans leur pratique professionnelle.
D'accord, donc en fait, vous ne souhaitiez plus être un acteur direct, donner cours directement, et au contraire, oui, avoir une fonction d'accompagnant.
Alors, c'était un moment dans ma carrière, effectivement, où je souhaitais davantage m'orienter vers ce travail auprès des enseignants. Mais en fait, mon parcours professionnel montre aussi que je suis revenu aussi un moment dans l'enseignement, dans le conseil, d'une autre façon auprès des enseignants, dans des contextes assez variés.
Et qu'avez-vous appris lors de ce master, donc le master multimédia interactif?
Alors, ce master a été très très formateur parce que en fait on a appris en fait à gérer des projets, alors plutôt dans le multimédia de manière au sens large, donc notamment en tant que chef de projet de web et au service, ce qui était intéressant, de la pédagogie dans le cas où qui nous intéresse en fait dans mon parcours, puisque c'était en alternance. Donc, à un moment donné, on avait un certain nombre de cours théoriques, on avait de la pratique sur des logiciels, sur aussi une méthodologie pour mener un projet. Et en même temps, donc on était en alternance dans une structure, donc là, c'est en l'occurrence, un grand groupe du multimédia où j'ai pu travailler en équipe sur des modules interactifs qui étaient destinés aux enseignants de lettres dans le secondaire. Donc voilà, c'est ce qui était intéressant notamment dans cette formation, c'était que concrètement, moi, j'ai travaillé sur des projets qui impactaient directement les enseignants dans leur pratique pour les aider, pour les accompagner, pour leur donner des ressources pédagogiques. Donc, il y a une grande alternance justement entre pratique et théorie et ça m'a donné un bagage qui m'a permis ensuite d'expérimenter de nouveaux parcours professionnels au sein de ma carrière.
Et donc, c'est au cours de cette formation que vous avez découvert ce métier, car c'est quand même un métier dont on n'entend pas beaucoup parler, on n'a pas beaucoup d'informations dessus.
Alors, je ne sais pas s'il a ce côté peut-être un peu furtif, comme vous le suggérez. Je pense que ça dépend aussi des réseaux dans lesquels on travaille. Je suis notamment dans mon travail actuel où je suis ingénieur pédagogique à l'École nationale des ponts et chaussées, amené à travailler notamment souvent en réseau. Et donc, effectivement, en termes d'ingénieur pédagogique, parfois il y a certains métiers ou fonctions dans certaines institutions qui s'en rapprochent beaucoup et l'intitulé n'est pas forcément celui-ci. Mais en fait, le fait de concevoir et développer des contenus pédagogiques et des dispositifs d'apprentissage, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de structures publiques, privées. Et en fait, effectivement, on va peut-être avoir parfois d'autres appellations ou des termes comme learning designer, par exemple, qui vont décrire un certain nombre de fonctions autour de la pédagogie et de la conception de contenu, ou aussi, on va avoir des missions de conseiller pédagogique, mais en fait, je dirais que c'est un métier qui a la croisée des chemins parce qu'il utilise des méthodes et des outils pour créer des parcours d'apprentissage adaptés aux besoins des apprenants. Et en fait, c'est une des fonctions essentielles dans la construction de parcours de formation qu'on va avoir, notamment, ben, comme je le disais, effectivement, dans différentes structures, sans forcément que ça, qu'on appelle, en termes de métier ou de personne qui est pratique, un ingénieur pédagogique, parce qu'on voit bien que notamment, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler dans des projets européens. On n'a pas forcément cette appellation ingénieur pédagogique, notamment en Europe. Donc voilà, cette définition, elle est peut-être pas toujours exportable telle quelle, mais en tout cas, on voit bien ce qu'il y a derrière. C'est effectivement la conception de contenu pédagogique, de dispositifs d'apprentissage. Donc, on a peut-être différentes appellations pour ce métier, mais en tout cas, on le retrouve dans énormément de contextes.
Et quelle est l'appellation au niveau européen, par curiosité?
Alors, il n'y a pas forcément une appellation officielle. Mais en tout cas, comme je disais, il y a aussi des contextes où un enseignant va finalement, de par ses fonctions au sein d'une structure ou d'une institution, avoir un rôle non seulement d'enseignant, mais aussi à un moment donné de conception de contenu pédagogique et de travail en équipe. Donc, on va retrouver notamment les notions, le terme de learning designer, on va le retrouver notamment au niveau européen, mais pas forcément après une appellation universelle, justement, c'est bien la preuve, puisque effectivement, on a cette appellation en France d'ingénieur pédagogique qui n'est pas toujours exportable à l'étranger.
Et donc actuellement, quelles sont vos tâches?
Alors, elles sont très variées et intéressantes, mais on est dans un contexte où on a des parcours très différents. Au niveau de l'école, on a effectivement un parcours de formation initiale, mais aussi de la formation continue, donc des masters spécialisés. Et en l'occurrence, moi, dans mes fonctions, je suis particulièrement rattaché à la formation continue. Ce qui veut dire que, au-delà de tâches, on va dire, assez récurrentes, qui vont être de la veille, d'aller notamment sur des salons professionnels, se tenir au courant des dernières évolutions, notamment par rapport à l'IA, et de nouer aussi voilà, des interactions avec des collègues ou avec des professionnels pour voir les potentialités de certaines solutions ou de certaines méthodes pour toujours apporter une réponse performante à ce qui peut être demandé en termes de formation. On a plusieurs choses qui sont importantes, notamment à l'école, c'est par rapport notamment à l'évaluation des enseignements. On a régulièrement, chaque semestre, des commissions d'évaluation des enseignements qui sont une manière, en fait, autour du directeur de la formation, des enseignants concernés, des étudiants référents et donc du service d'ingénierie et innovation pédagogique, en fait, faire le point sur le déroulement du cours et s'il y a des points qui peuvent être améliorés éventuellement ou des évolutions qui peuvent être envisagées. Et ça permet de faire un point régulier et notamment donc aussi donc avec le responsable de module afin de pouvoir toujours améliorer la qualité de l'enseignement à l'école. Donc ça, c'est une part assez importante de l'activité, mais évidemment, il y a tout un volet qui est notamment l'accueil des nouveaux enseignants. Comment leur permettre d'arriver dans les meilleures conditions à l'école, leur donner les outils et informations pertinentes pour les accompagner, notamment sur notre plateforme de formation, sur des outils qui vont pouvoir favoriser l'interaction en cours, en amphithéâtre notamment. Donc là, c'est toute partie d'accompagnement, d'accueil des nouveaux enseignants, mais aussi au fil de l'année, on travaille en réseau et on a aussi une offre de formation sur des thématiques telles que l'IA notamment, que de l'évaluation. Autour de ces thématiques avec d'autres institutions qui permettent aux enseignants de se former aussi dans la durée et sur des formations qu'ils auront choisies selon leur disponibilité au fil de l'année. Donc il y a accueil des nouveaux enseignants et accompagnement des enseignants qui sont déjà en poste. Et l'accompagnement, il va avoir différentes formes selon les besoins en fait et les contextes. On va avoir des outils qui vont permettre rapidement à des enseignants de se lancer et après on est en contact avec eux peut-être par rapport à des nouveautés, des choses qui pourraient être intéressantes à développer ou alors aussi peut-être des fonctions qu'on pourrait demander ou voir avec d'autres prestataires pour faire évoluer les outils qu'on peut mettre à disposition. Mais on peut avoir notamment dans la production de MOOC un travail très en profondeur sur la conception d'un parcours de formation avec les enseignants et déterminer quels sont les objectifs, les besoins. Et donc ça demande un accompagnement très particulier, très dans la durée, qui se donne dans la durée, afin de pouvoir accompagner les enseignants sur des modalités qui peuvent être à la fois en hybride ou dans le cas là, de MOOC en full distanciel. Donc voilà, dans les grandes missions et dans les activités récurrentes qu'on peut avoir au sein de l'école.
Et donc, est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur qu'est-ce que l'innovation technologique et quel est votre rôle précis dans les projets tenus à ce sujet au sein de l'école?
En termes, peut-être l'innovation technologique va être un terme assez
Assez vaste. Oui.
général qui va pouvoir recouper différentes réalités, mais quand on va rechercher notamment si on parle d'innovation en termes de pédagogie, on va c'est un petit peu ce que je disais il y a quelques instants en fait, l'idée c'est pas d'ailleurs innover pour innover parce que voilà on voit notamment que il y a des adaptations qui sont nécessaires et quand on parle justement d'innovation, si on peut prendre notamment l'IA, ça bouleverse un certain nombre de pratiques. Et l'idée, c'est et ce qui est intéressant à l'école, c'est qu'on a plusieurs moments aussi où on rencontre les enseignants. Comme je disais, ça peut être soit en accueil, ça peut être sur des projets de plus longue durée ou plutôt dans une optique formation continue. C'est aussi à l'occasion de jurys de recrutement où on peut avoir des échanges pour voir ce qui peut être mis en place. Et ce qui est enrichissant, c'est que justement, si je peux prendre par exemple un exemple où on a un enseignant qui faisait on va dire voilà, un cours de programmation et se rendait compte peut-être qu'il y avait des étudiants qui utilisaient beaucoup ChatGPT notamment. Et donc, en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu une discussion quand on a fait un bilan du cours. Et à partir de ça, il y a eu un nouveau cours qui a été programmé. Et avec l'enseignant, ce qui a été intéressant, c'est qu'il a Il y a eu, à partir de cette réflexion qui a pu se faire, c'est comment on pouvait travailler peut-être autrement avec les étudiants, mais il est parti sur d'autres postulats. C'est peut-être moins la beauté du code, par exemple, que à quoi il sert. Et donc, on s'intéresse au sens, et ça questionne bien évidemment le temps que passent les étudiants hors présentiel, évidemment, et une organisation, voilà, comment serait réparti le travail à la maison et le travail en cours. Mais c'est un exemple en même temps de faire comment on peut innover dans la manière d'enseigner. À l'ère, en tout cas, effectivement, de ce qui nous occupe beaucoup depuis maintenant quelques temps, c'est l'IA et comment elle bouleverse la manière d'appréhender les contenus, de produire et d'apprendre. Et donc, ça, c'est un exemple, effectivement, d'accompagnement sur des changements qui sont importants, mais qui permettent aussi, à un moment, aussi aux enseignants, peut-être, de répartir différemment leur temps de conception. Parce qu'on a maintenant des outils qui vont permettre, à partir d'un contenu théorique, des contenus de cours, déjà même de proposer une structuration, peut-être même déjà quand même des exercices qui pourraient être proposés aux étudiants. Mais du coup, ça propose des modalités nouvelles, peut-être d'apprentissage, et de se concentrer sur certains points sur lesquels on avait un peu moins le temps, que ce soit en conception ou en présentiel, de se porter. Et c'est évidemment, puisqu'on a aussi un département de langue, ça impacte énormément aussi la façon de travailler et d'aborder les langues étrangères quand on parle de travail à la maison. Donc voilà, j'ai choisi un angle spécifique parce que, voilà, disons que l'innovation, après, c'est de pouvoir, à un moment donné, répondre au mieux aux attentes à la fois des enseignants et puis des étudiants pour avoir des outils qui sont adaptés, qui sont aussi dans leur temps. Typiquement, aussi, comment on peut intéresser et jouer sur l'interaction dans un amphi où il peut y avoir beaucoup d'étudiants, et comment, peut-être en utilisant des outils qui vont peut-être finalement solliciter, par exemple, le smartphone, mais dans une optique où, voilà, à un moment donné, on va faire un point sur les connaissances, voilà, on vient de voir ça, et s'assurer que tout le monde est bien centré sur l'écoute et l'échange durant le cours. Eh bien, c'est une manière aussi de s'adapter. Et encore une fois, quand je parle des commissions d'évaluation des enseignements, c'est aussi un peu notre baromètre pour savoir aussi, à un moment donné, si on est dans le bon timing, de bon tempo par rapport aux attentes, et que ce soit des enseignants et des étudiants et de l'institution.
Je comprends mieux pourquoi dans ma faculté, autant de professeurs utilisent des Kahoot.
Peut-être du coup, de façon générale, nous, on utilise un autre outil, mais je pense que ça, c'est, si je prends un autre exemple, c'est notamment, c'est quand je pense à l'amphithéâtre, je sais que notamment on a un enseignant, ça lui a permis de se, d'une certaine façon, mais j'aime bien finalement l'expression, de se
Connecté.
reconnecter avec son public, parce que parfois aussi l'enseignant, il peut être plus ou moins à l'aise selon la configuration, selon son propre parcours. On n'a pas toujours des enseignants et on a souvent des enseignants dont ce n'est pas forcément le premier métier. Ils sont, nous, on a beaucoup de professionnels. Et donc, en fait, ce n'est pas forcément leur métier d'enseignant. Ils ont Certains ont une grande expérience, d'autres moins. Et puis, pour d'autres, ce n'est pas toujours facile, dans un amphithéâtre, par exemple, de susciter des questions, d'avoir une interaction. Et donc, moi, j'ai pu voir effectivement que c'est un outil qui a permis notamment, par exemple, à un enseignant de se reconnecter, de recréer de l'interaction avec ses élèves. Et ce que j'ai trouvé assez formidable, c'est quelque chose qui est justement apparu à l'issue de ces échanges au sein des commissions d'évaluation des enseignements. C'est quelque chose qui existe depuis 50 ans à l'École nationale des ponts et chaussées. Qui s'est développé aussi avec le temps, mais qui répondait à un vrai besoin de qualité des cours qui sont proposés. Et donc, c'est quelque chose qui était un petit peu récurrent à un moment donné, cette attente des étudiants de davantage d'interactions. Et cet enseignant, ben voilà, moi je lui ai proposé une formation, et puis ensuite il est revenu vers moi, et maintenant il est promoteur de ce type d'interaction en cours, parce que notamment quand on parle de l'amphithéâtre, qui est quand même une configuration un peu spécifique, eh bien, c'était pour lui un moyen de pouvoir susciter l'attention, de pouvoir impliquer les élèves, à poser des questions, à créer de l'engagement. Et donc, voilà, je pense que c'est une des raisons qui doit expliquer l'engouement autour de ces outils d'interaction, que ce soit dans les grandes écoles ou en université.
Sur LinkedIn, vous avez précisé que vous réalisez un accompagnement méthodologique des thèses professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, je vous remercie pour cette question, parce que c'est effectivement un aspect dont je n'ai pas encore parlé. On a donc plusieurs masters spécialisés, et l'idée dans cet accompagnement, c'est en fait de sensibiliser les étudiants aux enjeux de la thèse professionnelle, de la manière dont ça va se passer aussi, hein. Donc c'est finalement le fait d'être un moment en entreprise. Et donc l'idée, c'est de leur donner les grands enjeux qui vont se poser, de trouver une problématique, comment bien poser le sujet en fait, comment être le plus pertinent possible dans la réalisation de ce mémoire. Et aussi les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir la présenter, la soutenir. Et donc, c'est un accompagnement, et plus des comment dire, des petites interventions, des interventions qu'on fait régulièrement auprès de différents masters spécialisés, pour présenter les enjeux, la manière aussi un peu formelle dont ça va se présenter. C'est en amont pour les sensibiliser, et puis de regarder un petit peu ce qui a été fait par les promotions précédentes. Et donc, c'est important, parce que ça va permettre justement, alors que les étudiants ne sont pas encore justement dans le cadre de l'entreprise où ils vont préparer leur mémoire, ça leur permet déjà d'anticiper un petit peu les questionnements, la manière dont ça va se passer avec le tuteur en entreprise, le tuteur académique. Et donc, ça les met dans une posture justement déjà de vigilance par rapport à un certain nombre de points, le planning, comment ils vont devoir se placer, se positionner, et bien penser aux différentes étapes. Et donc ça, et je dirais que là, dans ce cas de figure, on est plutôt, voilà, on est du côté des étudiants pour les accompagner. Donc c'est plutôt un accompagnement là des étudiants, puisque là, moi, dans mes fonctions en tout cas, c'est plus accompagnement des enseignants, mais là, c'est plus versant étudiants, pour leur donner en fait toutes les clés utiles afin de les accompagner dans la réalisation de leur thèse professionnelle. Et j'en profite pour souligner, alors c'est peut-être quelque chose qui sera abordé à un autre moment, mais en tout cas, c'est vrai que moi, je n'avais pas eu jusqu'à présent dans ma carrière eu l'occasion de voir travailler et de présenter et d'animer en anglais. Mais là, c'est le cas notamment pour certains masters spécialisés. Donc voilà, c'est aussi l'enjeu de pouvoir s'exprimer et expliquer certains concepts en langue étrangère. Et donc ça, c'est une dimension internationale qui est extrêmement intéressante, et que j'ai pu développer notamment dans mes missions actuelles. Donc voilà, il y a cet accompagnement. On va dire, c'est un workshop où voilà, les étudiants vont être sensibilisés à la manière dont ils vont pouvoir aborder la thèse professionnelle. Et puis après, tout l'accompagnement spécifique est fait au niveau de chaque master spécialisé. Là, c'est plus une sensibilisation à la thèse professionnelle qu'on propose au sein du service.
Pour revenir sur votre parcours, donc vous avez travaillé au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vu que vous avez quand même un parcours un peu plus particulier que quelqu'un qui sortirait directement d'un master d'ingénierie pédagogique,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes entré à l'intérieur, ou plutôt, enfin, ça a été une continuité, vu que vous êtes fonctionnaire détaché, c'est ça ?
Exactement. Il se trouve que effectivement le fait que j'ai repris un moment mes études et le master 2 que j'ai passé en fait m'a ouvert des portes et c'est ainsi que après une expérience assez courte mais qui avait été intéressante en tant que chef de projet web j'ai donc eu l'opportunité de travailler au sein du ministère de l'Intérieur en tant que adjoint puis chef du service e-formation et communication. Donc en fait, il y avait une continuité avec les études que j'avais reprises et qui m'ont donné un certain nombre de clés et de compétences qui m'ont permis d'appréhender tous les enjeux de ce poste. Donc au sein de ce poste, il y avait beaucoup d'enjeux autour de la formation, surtout à distance. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui a été très important parce que on devait notamment autour des compétences des agents pouvoir faire un moment quelque chose qui sera rapproché d'un bilan de compétences. On avait une plateforme avec des concours et puis différentes thématiques propres aux préfectures, sous-préfectures qui étaient importantes de pouvoir aborder avec notamment un travail important avec des formateurs internes à temps plein. Et donc cette expérience au sein du ministère de l'Intérieur a ajouté un certain nombre de bases pour moi aussi de travail en mode projet. Également en management. Et donc, c'était une formation qui est une expérience professionnelle très enrichissante de ce point de vue. Ça m'a ensuite amené, puisque je suis à un moment retourné à l'éducation nationale, d'aller sur des postes, notamment de formateur académique, qui m'a permis d'accompagner des enseignants là de tout niveau, on va dire, dans des contextes professionnels très variés, dans leurs pratiques professionnelles. Moi, je suis ici à la base, mon cursus, il est en art plastique, et donc j'ai accompagné un certain nombre de débutants aussi. Donc il y a les aspects en fait formation initiale, formation continue, aussi à l'éducation nationale, dans leur entrée dans le métier. Et aussi d'accompagnement d'enseignants dans le cadre de visites conseils pour pouvoir analyser la pratique. Et je pense que c'est une des expériences qui a pour moi été les plus enrichissantes. Voilà, donc c'est ce parcours-là ensuite a bifurqué au sein de réseau Canopé qui dépend de l'éducation nationale et qui est plus spécifiquement un réseau qui va accompagner les enseignants dans des pratiques professionnelles innovantes autour aussi du numérique. Et donc, ça m'a permis aussi, sur ce volet-là, d'accompagner des enseignants, des équipes pédagogiques autour de la forme scolaire, la manière dont on travaille dans l'espace classe, comment on le réfléchit par rapport aux différentes manières de travailler, si on la questionne par rapport à une vision un petit peu très centrée sur l'enseignant et avec des chaises et des tables placées un peu en autobus et avec un savoir qui est comme ça très directif. L'idée, c'était de voir comment on pouvait travailler un petit peu différemment. Et donc, c'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait cet aspect-là, comment on peut développer dans des espaces comme le CDI de la web radio, de la web TV, comment ça permet aussi aux élèves d'apprendre différemment. Donc, voilà, ces différentes expériences, l'enrichissement de mon cursus professionnel m'a permis aussi, à un moment, de pouvoir aborder des contextes très différents, professionnels très différents. Et donc, et de favoriser le travail collaboratif, notamment des élèves, qui est favorisé par des espaces qui le favorisent. Quand on pense à des tables, des chaises ou du mobilier pédagogique qui va pouvoir être mobile, qui pourra se transformer, qui pourra prendre d'autres places dans la classe que celles qu'on connaît de manière assez traditionnelle jusqu'à présent.
De quel projet, passé ou présent, êtes-vous le plus fier ?
Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'expériences professionnelles différentes. Je ne suis pas sûr que je peux identifier un projet en particulier, mais si je pense à ce que j'ai, de manière plus globale, à ce que j'ai pu apporter, j'espère avoir pu apporter à des collègues notamment, disons que c'est. Dans la notion de projet, je place en fait, il y a une congruence avec le projet professionnel. C'est comment et accompagner les enseignants dans l'évolution de leur pratique, en fait. Et donc, disons que j'ai tendance à considérer qu'en fait, mes expériences professionnelles, elles ont toutes tendu vers cela, en fait. Et donc, quel que soit le contexte. Donc, disons, le projet dont je suis le plus fier, c'est une fierté peut-être. Ça, peut-être par rapport à mon parcours, parce qu'il m'a permis justement de mettre ce parcours au service, alors aussi à la fois des enseignants, mais également des étudiants et des élèves.
Et quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier?
Alors, il y a un certain nombre de qualités, et après, soit il peut y avoir quelque chose qui est un peu général ou trop particulier. Donc, en tout cas, il y a effectivement différents parcours pour arriver à ce type de métier. L'expérience montre, et puis je constate que je ne suis pas le seul dans ce cas, que voilà, il y a notamment un certain nombre d'enseignants qui arrivent dans ce type de métier, parfois avec des parcours professionnels qui les ont emmenés, peut-être comme moi aussi à un moment, à avoir un complément de formation, à aller sur un M2 notamment, pour leur permettre d'avoir les outils et le bagage en fait pour aborder ce type de métier. Il faut avoir des qualités de communication, de savoir travailler en équipe. Donc on voit aussi qu'il y a des qualités qui sont parfois qui vont au-delà de ce métier en particulier, mais il faut avoir des qualités d'organisation. Il faut évidemment avoir un bagage qui va permettre d'avoir une expertise en termes de conception pédagogique, et donc pour être au maximum efficace et d'apporter voilà tous les outils théoriques et pratiques aux enseignants pour pouvoir leur permettre de créer leur parcours. Donc voilà, il y a un certain nombre de qualités. Il y a le fait d'avoir une curiosité aussi par rapport aux nouveautés, à la manière dont elles peuvent avoir un sens dans notre métier, comment elles permettent peut-être aussi, comme je disais un peu tout à l'heure, par rapport à l'IA, comment pouvoir se concentrer davantage sur certaines tâches. Et peut-être sur certaines autres, de pouvoir un peu de pouvoir un peu un moment en avoir une première approche, et puis de ne pas partir forcément à chaque fois d'une page blanche. Donc voilà, c'est un petit peu, et c'est une capacité à travailler en réseau, une capacité à travailler en équipe. Et je dirais, par rapport à mon expérience actuelle, c'est d'avoir aussi une capacité à travailler, alors évidemment ça dépend des contextes, mais dans une dimension internationale, de pouvoir travailler avec des collègues qui sont pas forcément basés en France. Et ça, c'est, quand je dis ça, c'est que ce soit valable pour des grands groupes, mais évidemment des universités et des grandes écoles où on travaille de plus en plus sur des projets européens. Je pense par rapport à l'École nationale des ponts et chaussées, au projet ELISA notamment. Donc c'est voilà, une capacité à travailler en équipe, à pouvoir aussi s'adapter, une très forte adaptabilité. Moi, je dirais que c'est avec évidemment la maîtrise d'outils technologiques, hein, on pense aux plateformes, l'administration de plateformes et certains outils qui vont permettre de créer des parcours pédagogiques. Je dirais que voilà, et évidemment, savoir bien gérer son temps, ça fait partie qualité qu'on pourrait retrouver et qu'on retrouvera aussi dans notre métier.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier?
Et juste, alors j'allais dire justement dans le fait de pouvoir s'adapter à des contextes différents. Ce que j'aime bien, c'est effectivement la variété des contextes dans lesquels je suis amené à travailler. Quand je parle notamment du volet international et en l'occurrence européen, ça permet justement de questionner. On parlait tout à l'heure de comment on nomme aussi certains métiers finalement. Ben, ce n'est pas toujours la même chose dans certains pays et ça ne recoupe pas toujours exactement les mêmes missions. Mais justement, c'est intéressant parce que ça permet d'opérer des déplacements, de se dire oui, voilà, je viens de là, j'ai ce parcours-là, mais d'autres parcours sont assez différents et ensemble, on va construire quelque chose. Donc, si je devais résumer, qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de construire ensemble. Voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important et de construire ensemble, mais évidemment dans des contextes qui vont parfois être très différents. Et encore une fois, cette dimension internationale, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté dans mon parcours professionnel.
Vous pouvez nous en parler un peu plus justement de cette dimension internationale?
Bien, l'idée, c'est de pouvoir proposer notamment une offre de formation qui puisse être proposée aux différents enseignants de différentes institutions européennes. C'est extrêmement intéressant parce que finalement, c'est une manière de travailler en réseau qu'on a hein, à l'école des Ponts. Le fait de travailler notamment avec un réseau regroupant un certain nombre d'institutions, d'autres institutions, permet de proposer d'avoir une offre de formation sur l'année, différents ateliers, que ce soit à distance ou en présence, et sur différentes thématiques, comme j'évoquais un peu tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est de pouvoir aussi imaginer à un niveau européen comment on peut proposer une offre de formation qui puisse être adaptée à différents pays, en fait, et intéresser un public d'enseignants au niveau européen, mais aussi des étudiants. Et donc, c'est une dimension extrêmement intéressante parce que ça suppose de construire, mais encore une fois, un peu autrement. En anglais, hein, donc la langue des échanges, et puis avec l'expérience et l'expertise de chacune des institutions, ça permet d'enrichir les propositions, de pouvoir réfléchir à une offre qui soit adaptée à différents publics et là, en l'occurrence, aussi à différents pays européens. Donc ça, c'est une dimension que je trouve absolument passionnante.
Comment voyez-vous évoluer ce métier dans les prochaines années ?
Alors, c'est une grande question.
Oui.
Mes capacités de divination seront peut-être un petit peu limitées.
Par rapport à l'IA, par exemple
Oui. Exactement, parce que c'est vrai que ça peut être après de réécouter cet échange dans quelques années, mais évidemment, si je veux pas trop me tromper, je pense que voilà, l'IA va certainement changer un certain nombre de choses dans le métier. Je pense qu'il y a une dimension qui, à mon sens, sera toujours très importante, c'est l'accompagnement, c'est l'échange, justement, c'est la communication, c'est comment on accompagne les enseignants et comment on peut proposer quelque chose qui soit le plus adapté à leurs besoins. Alors évidemment, ça va se passer certainement de manière un petit peu différente parce que, effectivement, l'IA, ne serait-ce que même dans les parcours d'apprentissage, l'analyse des données, va permettre un certain nombre de choses et aussi côté étudiant, va bouleverser leur manière d'apprendre. Mais justement, je pense que ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, les enseignants, ils sont déjà dans cette démarche-là, pour beaucoup, d'imaginer comment, et d'imaginer et de construire et de faire, déjà dans le concret, comment s'adapter. Et quand je parle justement de s'intéresser peut-être moins à la forme du code qu'à son sens, et à la forme des choses, peut-être moins sur la forme, mais sur le fond, eh bien, c'est intéressant parce que voilà, je pense que ça résume bien en fait ce que ça peut ouvrir comme espace et comme enrichissement mutuel et qualité en fait de l'accompagnement qu'on pourra apporter parce qu'il y aura à mon sens toujours une importance du conseil, parce qu'on voit aussi que l'IA pose aussi un certain nombre de questions sur, alors en termes aussi de souveraineté, de fiabilité. Et donc, cette mission d'accompagnement, à mon sens, elle aura toujours un sens, mais certainement, on va pouvoir la travailler autrement avec les enseignants. C'est compliqué d'aller plus avant pour imaginer des possibles. On pense aussi à ce qui peut, notamment en termes de réalité virtuelle, la réalité augmentée, peut modifier la manière d'aborder certaines formations. Et comment ça peut aussi impacter l'hybridation des enseignements. Il y a certainement un certain nombre de choses qui vont évoluer et puis certainement des évolutions profondes qui seront à la fois dans le métier d'enseignant et dans nos métiers. Mais fondamentalement, je pense que l'échange, et j'espère que l'échange, le fait de pouvoir travailler ensemble et d'apporter aussi une pluralité de points de vue sur la manière dont on peut concevoir des dispositifs pédagogiques, comment on peut les faire vivre, comment on peut les évaluer, et puis comment on peut les faire progresser, ben, elle sera toujours présente.
Pour clore cette interview, avez-vous un meilleur souvenir à nous raconter?
Alors, des souvenirs, j'en ai beaucoup. C'est vrai que c'est le choix est difficile. Alors, ce serait difficile d'en isoler un en particulier. Mais je dirais que d'avoir pu accompagner des enseignants d'horizons très différents et dans des contextes professionnels variés, allant de la formation initiale à la formation continue, de la maternelle à l'enseignement supérieur, en fait, ça forme une constellation de souvenirs marquants et qui me motive pour le futur de ma carrière.
Oui, c'est un métier qui est gratifiant.
Exactement.
Eh bien, monsieur, je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très intéressant.
Et merci à vous. Très bonne journée.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt!